France Inter. Le masque et la plume. Un nouvel épisode du Masque consacré à la rentrée littéraire, tandis que les jurys des prix d'automne ont révélé leur première sélection cette semaine. Au programme de ce jour, deux fresques familiales, l'une signée Emmanuel Carrère avec Cole Cause, l'autre écrite par l'américaine Joyce Maynard, dont le nouveau texte s'intitule « Par où entre la lumière ?». Figurent aussi « La nuit au cœur », roman enquête de Natacha Apana sur des féminicides, et les romans d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas, en tout cas pas encore, des habitués de la rentrée littéraire. Jean Michelin avec « Nous les moches », épopée d'un groupe de rock dans des bleds américains, et « Jouer le jeu », deuxième roman de Fatima Das. Pour en débattre, depuis la scène du théâtre de l'Alliance française, les forces en présence sont Jean-Marc Proust du média en ligne Slate, Laurent Chalumeau qui publie ses conseils de lecture sous le pseudo de Larry Blowtorch sur Instagram. J'ai récemment appris que Blowtorch voulait dire Chalumeau, et oui, c'est comme ça. Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, et merci d'accueillir pour une première Nicolas Destienne-Dorve, auteur. Bonjour et bienvenue, voici le masque et ses plumes. Dans le courrier de la semaine, vous poursuivez le débat critique pour Les piliers de la mer de Sylvain Tesson, qui fut au programme du Masque au début de l'été. Vous vous étonnez de l'indulgence de certains, et le mail de Christian Fleury de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, c'est dans la Manche. Le message de cet auditeur, disais-je, me semble résumer les impressions de celles et ceux qui nous ont écrit. J'ai été contraint, le mot est entre guillemets, de lire Les piliers de la mer de Sylvain Tesson, explique Christian Fleury, parce qu'étant géographe, mes principaux thèmes de recherche concernent la mer et les îles. J'étais prêt à pardonner à l'auteur approximations historiques et géographiques, mais les leçons données et le mépris pour le Pékin moyen ont eu raison de mon indulgence. Et qu'est-ce que c'est que cette idée d'affubler Victor Hugo du sobriquet condescendant de Totor ? Difficile de faire plus déplacé, dit cet auditeur. Selon moi, ce livre, c'est quelques pépites sous forme d'îlots dans un océan d'autosatisfaction. Jean-Marc Esseric de Mélan, près de Grenoble, remercie Laurent Chalumeau pour son conseil de lecture dédié à Pâture, premier roman d'Alexandre Lamboureau. Prendre une bonne claque dans la torpeur de l'été, ça réveille et ça stimule, écrit Jean-Marc. Ce texte brûle comme le soleil d'août et ça cogne fort. Pour les plus sensibles, pensez à vous protéger. Marre de ces écrivains qui tentent de capter notre attention en livrant leur vie et celle de leurs parents, écrit Emmanuel Bonin depuis l'Indre-et-Loire. Cet auditeur va donc beaucoup souffrir en cette rentrée, puisque pas mal de romans publiés sont justement consacrés à des histoires familiales. Aussi, cet auditeur nous conseille la lecture d'un primo-romancier. Il s'appelle Mathieu Niango et son livre s'intitule « Le fardeau ». Et de quoi s'agit-il ? D'un roman familial, mais je cite « lu en une nuit avec des destins évécus et insensés ». Enfin, sur Instagram, Olga m'écrit « J'ai 30 ans, j'écoute le masque et aime la sensation d'être invitée à une table ouverte. Cela dit, je souhaiterais vous entendre manier un langage un peu plus châtié ». Dans mon souvenir, Laurent Goumard a lu un courrier qui allait aussi dans ce sens il y a 15 jours. Olga poursuit « C'est chiant, ne me semble pas masque compatible. Même quand vous dites bouquin, j'ai un petit pincement au cœur, j'avoue ». Et la toute dernière phrase de ce message est la suivante. Allez meuf, je te fais un hug. On commence avec le nouveau livre de Natacha Apana, La nuit au cœur, qui relate trois histoires de femmes violentées par leurs compagnons. L'un est journaliste-poète, l'autre chauffeur dans un ministère, le troisième est maçon. Mais c'est à ces femmes que Natacha Apana consacre, voire dédie ses pages. Deux d'entre elles sont mortes, une seule a survécu aux violences, et cette survivante, c'est elle, l'autrice et la narratrice. Natacha Apana écrit Le mécanisme de l'emprise, vécu entre ses 17 et 24 ans, alors qu'elle était une jeune autrice en plein élan. Elle tresse ce récit autobiographique avec le parcours de sa cousine, morte assassinée par son mari dans le silence assourdissant de sa famille, et avec l'histoire de Chaïnès Daoud, algérienne venue s'installer en France, où elle fut brûlée vive par son compagnon le 4 mai 2021. Et avec ce fait divers, le roman mute en enquête. Deux des récits se déroulent à Maurice, île de naissance de Natacha Apana, et celui de Chaïnès Daoud à Mérignac, près de Bordeaux, où est installée l'autrice. Je voudrais écrire ce qui va suivre en trouvant un autre moyen que l'écriture, en l'éclaboussant sur cette page, écrit Natacha Apana, qui figure d'ailleurs dans la première sélection du Goncourt. Jean-Marc, c'est toi qui ouvres le bal des critiques pour cette émission.
Je pense que c'est plutôt un bon livre. Je trouve que le style de ce bouquin est vraiment remarquable, notamment l'introduction que je trouve magistrale. Cette idée de prendre les trois auteurs de féminicide, enfin deux féminicides et elle a échappé, et de dire je les mets ensemble dans une même pièce, une pièce imaginaire où ils ne pourront pas s'échapper. Elle fait son travail de romancière et elle rend justice aux victimes, c'est-à-dire qu'elle dit à ce moment-là je les isole et je vais les laisser parler les victimes avant que les victimes tombent dans la broyeuse des familles, de la justice, des médias, où on va commencer à bousiller leur récit. Ma petite réserve vient du traitement différent qu'elle donne aux trois récits, et je pense que c'est lié à son histoire personnelle. Pour les deux femmes, Shainez et Emma, si je ne me trompe pas, sa cousine, elle a un traitement qui est d'une grande honnêteté, qui s'apparente à une enquête journalistique. Elle essaye de restituer avec le plus d'honnêteté possible ce qui leur est arrivé. Et je crois que cette honnêteté crée une distance qu'on ne trouve pas dans le récit qui est le sien, où là, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la façon dont elle raconte ce qu'elle a vécu. Et je vous invite à lire les pages 82-83, le moment où il la poursuit en voiture. D'un point de vue littéraire, j'ai trouvé ça absolument remarquable, parce que c'est des phrases saccadées qui viennent les unes après les autres. Un mot, deux mots, trois mots. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Et je pense qu'à ce moment-là, elle-même ne sait pas ce qui se passe.
Et cette scène-là, d'ailleurs, raconte effectivement le trouble de toutes ses perceptions.
Exactement. Et enfin, l'ensemble du livre, ou presque, est écrit au présent. Et je pense qu'en faisant ça, elle nous dit qu'elle n'est pas en train de raconter des histoires passées, des histoires vécues, elle est en train de raconter des fémicides qui, au moment où je parle, sont en train de se préparer ou de se perpétuer. Et j'appelle votre vigilance.
Et à 7 minutes du début de cette émission, je passe la parole à Laurent Chalumeau.
Je suis embêté parce que je suis d'un avis assez différent. C'est un livre sur les féminicides et écrit par une femme qui elle-même a failli être tuée par un taré masculin ordinaire. Donc c'est un texte qui... proscrit tout commentaire autre que des hurrahs extasiés et emphatiques. Donc, que dire ? On pourrait s'arrêter là. Alors, c'est dommage.
Mais tu as des réserves quand même, visiblement.
Alors, oui, parce que moi, je trouve qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce que je considère comme un pur produit de ce qu'on pourrait appeler le complexe littéraro-éditorial. Il y aurait beaucoup à dire sur les éléments de sa fabrication. J'emploie ce terme en sachant qu'il peut avoir un sens éventuellement péjoratif, parce que je trouve que ce qu'il s'agit de sa construction, de la façon compassée dont il aborde son sujet, de l'espèce de néo bien écrit BCBG qui l'enveloppe.
Qu'est-ce que tu veux dire par compassé ?
Bah, c'est-à-dire qu'elle adopte une espèce de pseudo-pudeur. Elle passe son temps à s'excuser, sauf un point qui me paraît très intéressant, c'est qu'à la fin du livre, elle fait un refus d'obstacle, comme un cheval qui pile devant un auxerre, et elle dit « Non mais là, il s'agit de raconter des choses qui lui sont arrivées à elle. » Elle dit « Non mais là, ça, je ne vais pas pouvoir le raconter, d'une part parce que je veux conserver une forme de pouvoir sur ce qui m'est arrivé, ça, je trouve ça très, très inattendu et très impressionnant. » Et elle dit « Et d'autre part, parce que je ne trouve pas les solutions stylistiques pour rendre justice à ce qui m'est arrivé. »
Et d'avouer, je trouve qu'elle les a trouvés, justement.
D'avouer qu'elle nage là où elle a papier quand il s'agit d'elle-même démontre bien qu'elle est très outrecuidante quand elle s'invite dans la tête des autres. Et le martyr des deux autres est prétexte pour elle à des effets de style pas toujours très heureux qui se hissent guère au-dessus de fait entrer l'accusé ou des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. La prétention en plus.
Donc, mais ça va pas.
Et comme d'habitude, c'est la prétention qui gâche tout. Je m'étais promis de ne pas être méchant, mais c'est assez frauduleux pour avoir le Goncourt.
Je te passe la parole, Elisabeth.
Je vois que tu portes une jolie paire de lunettes, Laurent.
Elisabeth, ne te calme pas.
À mon avis, il faut les changer. Il faut changer les verres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là,
il est fou, Afflelou.
Tu as employé des mots qui sont exactement l'opposé de ce qu'est ce texte. Outrecuidance, prétention, c'est tout sauf ça. Ce que tu dis sur la fin du texte, où effectivement, il y a ce refus d'obstacle, en fait, tout le livre, c'est cette lutte avec l'écriture. Tout ce livre, c'est cette pudeur. Il y a des anaphores très régulièrement de « je voudrais écrire,
je dois écrire ».
Elle dit qu'elle tourne autour de ce sujet, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle a l'impression d'être dans une spirale. Et en même temps, elle nous emmène dans cette nuit. Il faut quand même énormément de pudeur, de délicatesse, justement, et c'est très paradoxal, pour raconter cette violence. Qui plus est, quand c'est une violence dont l'autrice a été directement victime.
Ouais, c'est ce qui rend le texte possible et tolérable. Parce que si en plus, il lui était rien arrivé... Là, ce serait vraiment scabreux et problématique.
On ne va pas rentrer dans ce débat. Je trouve qu'au contraire, elle fait preuve d'une, d'une très grande intelligence littéraire dans sa façon d'aborder ce sujet. Et d'ailleurs, je trouve qu'il ne faut absolument pas réduire ce texte à un livre à sujet, simplement le présenter comme un livre sur le féminicide. Vous savez, quand on prépare une rentrée littéraire, on reçoit énormément de textes et on peut les lire un peu au kilomètre. Et il y a un moment, on en ouvre un et on se dit, là, il se passe quelque chose.
Et très concrètement,
c'est exactement ce qui s'est passé. Tout d'un coup, on marque un temps d'arrêt devant ce qu'on est en train de lire. Et il y a effectivement cette scène inaugurale qui est extrêmement frappante avec ces agresseurs qu'elle met dans cette pièce. Et à la fin de chacun des portraits, elle dit, allez voir comme ça, on n'imagine pas. Et en fait, toute la difficulté pour elle dans l'écriture de ce texte, c'est de rendre visibles des violences qui sont la plupart du temps imperceptibles, qui sont invisibles. Elle le dit à me voir, elle interroge ensuite des gens qui l'ont rencontrée au moment où elle était sous emprise, parce que quand elle rencontre l'homme dont elle est la victime, elle a 17 ans. Et pendant environ 6 ou 7 ans, je ne sais plus, elle va vivre complètement isolée du monde. Elle ira quand même travailler, mais elle ne voit plus ses parents, elle ne voit plus personne. Et à la fin du livre, elle interroge des gens qui l'ont connue à cette période et qui ne voyaient rien.
Mais elle interroge aussi ces gens pour se voir elle-même.
Pour se voir elle-même, parce qu'elle le dit, toute cette période de ma vie a été un angle mort. C'est quand elle a appris pour sa cousine, puis qu'elle a appris le fait divers, enfin ce qui s'est passé pour Shaina Daoud. C'est là qu'elle rentre dans l'écriture.
Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est une certaine retenue stylistique, en fait. C'est-à-dire qu'elle va pas,
oui, mais je trouve qu'elle
va pas dans la violence. C'est vraiment le seul reproche que je ferais à ce livre.
Oui, mais pour moi, c'est pas un reproche, c'est ce qui fait toute la force et la puissance littéraire de ce texte. C'est justement cette immense délicatesse de ne pas donner dans le voyeurisme, dans le sensationnel. Enfin, c'est vraiment un texte d'une très grande beauté. Je sais que c'est étrange de dire ça, mais c'est un texte d'une très grande beauté.
Et on n'a pas encore entendu la voix de Nicolas Destienne
d'Orve. Alors, effectivement, je vais être plus comme mon camarade Laurent. Moi, je l'ai ouvert, j'ai pas eu un temps d'arrêt, ça m'est assez rapidement tombé des mains. J'avoue, je l'ai lu en entier. Mais déjà, quand je vous entends parler, on parle pas d'un livre, on parle d'un trauma. Donc, il y a toujours une chose où on n'ose pas attaquer un sujet. Le sujet est tellement délicat. L'intérêt, c'est pas voir si c'est pas que le livre soit important, soit un livre nécessaire. C'est si le livre est bon ou mauvais. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement artificiel, démonstratif, même pâteux parfois, avec parfois des scènes remarquables. Là, cette scène de viol où elle décrit à la fois le viol et le fait de décrire le viol, mais j'ai pas réussi à être touché. Et le fait de mettre sur un même plan,
bah, je sais pas ce qu'il te faut pour être touché.
Alors, je suis désolé, mais le fait de mettre sur un même plan effectivement deux féminicides et ce qui lui est arrivé à elle, c'est une survivante certes, mais voilà, est-ce que on peut mettre ça exactement au même niveau?
Elle voilà. prend
parce que ça s'est joué à
même.
Peu de choses oui. près, en fait.
Certes.
C'est un hasard, un concours de circonstances qui fait qu'elle n'est pas morte et qu'elle peut livrer ce récit.
Et en plus de ces trois femmes, il y a aussi toutes les voix qui se superposent à ces femmes. Les voix policières, les voix judiciaires, politiques, les fausses voix.
Ce que moi, je trouve indigeste, justement, c'est qu'à la fin, on a tellement
d'informations. Non, elle le fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, et c'est un livre d'une profonde justesse.
La nuit au cœur de Natacha Apana est publiée chez Gallimard. On passe à Jouer le jeu, deuxième roman de Fatima Das, jeune autrice révélée il y a 5 ans avec La petite dernière, adaptée au cinéma par Afsia Herzi. Le film sortira en salle en octobre, après une sélection à Cannes et un prix à Cannes aussi. Dans Jouer le jeu, nous suivons Kaiden, musulmane lesbienne, voilà pour les points communs avec le personnage principal de La petite dernière. Kaiden vit dans un appart HLM avec sa sœur et sa mère, et Fatima Das écrit son quotidien de lycéenne. Sa bande de potes indéfectibles, et surtout la figure autoritaire et fantasmée de sa prof de français, Garance Fontaine. Entre l'enseignante et Kaiden se noue une relation trouble, de domination, dont je ne révélerai pas le dénouement, et au vu des talents d'écriture de Kaiden, Garance Fontaine la pousse à renoncer à un CAP coiffure pour présenter l'oral de Sciences Po. Le récit alterne entre troisième et première personne du singulier, avec des extraits du journal intime de Kay, surnom de Kaiden. Il est question de déterminisme social, des rapports de pouvoir et du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Elisabeth.
Alors c'est vrai qu'on attendait, en tout cas moi j'attendais avec impatience le nouveau livre de Fatima Das, parce que j'avais été très étonnée, surprise par La petite dernière, par ce côté très rugueux de la langue. J'ai moins retrouvé ça dans ce deuxième roman, qui est peut-être beaucoup plus classique dans sa forme, dans son écriture. Malgré tout, la colère qui était vraiment présente quasiment à chaque phrase de La petite dernière, on la retrouve sous une autre forme dans ce texte. Et même s'il m'a moins séduite, je trouve que qu'il est très important dans la mesure où Fatima Das fait exister des personnages qu'on voit très très peu en littérature. Il y a par exemple un ami de Kayden qui s'appelle Sami, qui est en CAP coiffure, qui est arabe, qui porte des crop tops, qui est homosexuel. Il y a, on est chez
elle,
des...
Justement, elle ne les fait pas exister. Elle nous dit qu'il est arabe, qu'il est homosexuel et qu'il est en CAP coiffure.
Si, Sami,
et
existe.
Ensuite, il n'existe plus. Ces
il
dialogues
existe,
sont inexistants.
Il a un cœur d'artichaut, il s'éprend de tous les garçons qu'il croise. Si, si, elle existe. Elle fait aussi exister une réalité pareille qu'on voit peu en littérature. Tous les personnages font attention au prix de ce qu'ils achètent. Il y a la précision que tous les produits qui sont dans les placards, c'est des produits Eco Plus. Je sais, ça paraît idiot comme ça, mais ça fait exister une réalité qui est très peu présente en littérature. Et rien que pour ça, je trouve que c'est important qu'une autrice comme Fatima Das fasse exister ces textes. Pour autant, il n'y a pas du tout une vision misérabiliste. Ce qui est important, c'est que le propos politique, il est peut-être un petit peu discret, caché, enfin, il n'est peut-être pas forcément... totalement maîtrisée, mais voilà, Kayden, il y a cette prof qui veut la faire correspondre au succès, aux règles de la réussite telles qu'elles nous sont imposées, telles qu'elles nous paraissent évidentes, mais qui ne sont pas du tout évidentes pour Kayden, et finalement, elle veut lui faire remporter les règles d'un jeu dont elle sait que les dés sont pipés, et en plus, elle n'a pas toutes les cartes en main, et elle se rebelle contre ça. Et ce que je pourrais reprocher au livre, c'est la relation entre la prof et l'élève, là, il y a quelque chose d'un petit peu nébuleux qui, je ne trouvais pas complètement abouti, mais politiquement, dans ce que ça dit, je trouve que c'est très intéressant. Elle pourrait le creuser, le fouiller, mais moi, je pense que Fatima Das a encore de grandes choses à nous dire.
Et s'il y a des personnages inédits, il y a aussi des scènes inédites, comme par exemple assister à un cours d'éducation civique.
Ça, c'est pas ce que je trouve
au lycée. Ah, mais du point de vue des ados,
ouais.
Elle fait parler et elle fait exister le ressenti des ados qui sont face à quelqu'un, une enseignante, qui a peur d'eux. Et ça, c'est aussi assez rare, et au cinéma et en littérature, de le vivre. Nicolas, quel est ce petit rire inaugural?
En fait, quand j'ai lu ça, j'ai lu tout ça sur PDF cet été, au départ, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un pastiche? Je me suis dit, est-ce que c'est pas Pascal Fioretto qui s'est amusé à faire un pastiche de livres qu'on avait dans les années 90 à l'école des loisirs avec la rédemption par le volleyball ou des choses comme ça? Et en fait, non. Puis avec ses dialogues, alors wesh, voilà, c'est rigolo. Voilà, on est dans la... Et puis un côté conso, effectivement, on apprend que chez Auchan, une pizza Margherita, c'est 2,50€ les trois. 4 paquets de café grand-mère pour 8€. Alors c'est formidable, il y a des pizzas raclette ou des soufflés goût fromage éco. Mais pour moi, encéphalogramme plat complet. Ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'elle développe cette relation avec cette prof. Justement, il y a une tension sentimentale, il y a un petit peu de... Il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, mais sinon, j'ai trouvé que c'était totalement plaqué, extrêmement artificiel. Mais pour des gens qui, comme moi, avant des enfants qui sont en première cette année, il y a une phrase que j'ai vraiment notée, « Nique sa mère, Parcoursup
voilà. ». Laurent, t'as plus d'enfants en première, toi?
Non, enfin pas à ma connaissance, mais je suis, et Dieu merci, et mes petits-enfants ne sont pas encore en âge. Non, je suis rassuré sur ma santé mentale, car je suis d'accord avec Elisabeth. J'ai été comme elle sensible au prix des choses. Un texte qui, comme ça se produit parfois, manifeste son propos, c'est-à-dire que, pour une part, ce qu'il raconte est une célébration de ces profs magiques et bienfaisants qui sont trahis par leur tutelle, poignardés dans le dos par les politiques, qui gagnent, comme chacun sait, des salaires de misère, qui bossent dans des conditions merdiques, pardon pour les auditeurs que ça scandalisera, qui sont chargés d'appliquer des programmes débiles et hors sol décidés par des idéologues, et qui, malgré tout ça, chaque année, sauvent des vies, parce qu'ils sauvent des cerveaux, et en sauvant des cerveaux, ils sauvent des vies, et des vies et des cerveaux qui ensuite profiteront à tout le corps social. Donc c'est dire l'importance de ces gens. Et l'autrice, d'une certaine façon, est elle-même le produit de ces petits miracles dont l'éducation nationale est le théâtre. Alors, une fois qu'on a dit ça, et pour parler comme un conseil de classe, en lisant ce livre, on se dit que l'autrice est certainement capable de passer dans la classe supérieure, en jouant évidemment sur le double mot du mot classe, mais pour y arriver, il va quand même falloir un petit peu travailler pendant les vacances.
En tout cas, elle pose la question de « ça veut dire quoi, sauver ?» C'est l'un des motifs du livre. Jean-Marc?
Pour moi, c'est très besogneux. C'est un livre qui est fait de collages, de remplissages. On trouve à peu près tout, des dialogues indigents, des personnages inexistants, des extraits de journal intime, une playlist, de la littérature grise. Il y en a plein, une fiche de renseignement scolaire, les sujets du bac, un extrait de la Dame aux Camélias, une fiche Wikipédia. Enfin, elle met à peu près tout ce qu'elle trouve.
Tout ça en 170 pages uniquement.
Donc, 170 pages. Et C'est un récit à peu près linéaire, mais sans épaisseur. Et je trouve ça d'autant plus dommageable qu'on est dans un scénario connu par cœur, cousu de fil blanc. Dès les premières pages, on sait ce qui va se passer. Et quand on
Ah non, elle le déchoue, justement,
ah
le
ouais.
scénario.
Bah, ah pas oui. tant que ça, non.
Vous allez spoiler, là.
Non.
Quand on a un scénario comme ça, que tout le monde connaît, la moindre des choses, c'est de donner du corps au personnage, de créer des situations de tension, etc. Et visiblement, c'est pas son propos. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était à peu près plat du début à la fin.
Jouer le jeu de Fatima Das est publié aux éditions de l'Olivier. La dramaturgie de cette émission fait que nous enchaînons avec le roman le plus médiatisé de cette rentrée, à savoir Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, lui aussi dans la première sélection du Goncourt, certains le pronostiquant déjà lauréat. Le livre s'ouvre avec une scène aux Invalides en octobre 2023. Ce jour-là, un hommage national est rendu à Hélène Carrère-Dankos, historienne spécialiste de la Russie et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Hélène Carrère-Dankos est l'axe autour duquel tourne le livre. Donc autour du portrait de cette femme gravite une histoire politique de l'Europe, faite d'immigration, de conflits, et Carrère se fait reporter en Ukraine le temps de plusieurs chapitres. C'est aussi l'histoire d'une relation tendre et cruelle entre une mère et son fils écrivain, qui revient sur plusieurs de ses livres à lui et à elle, et c'est l'histoire d'un couple. Hélène Dankos et Louis Carrère, amoureux et fascinés par la généalogie aristocratique de sa femme. Et d'ailleurs, le livre se termine avec lui, avec le père d'Emmanuel Carrère, et cette dernière phrase où il dit « Je le quitte ici ». Laurent.
Emmanuel Carrère est peut-être ces jours-ci dans l'univers le seul organisme vivant à qui l'existence de la Russie soit profitable. Parce que la Russie lui réussit, il en parle, de mon point de vue, superbement, mais il parle aussi superbement du reste. Et c'est d'ailleurs amusant de voir comment ce garçon qui n'est pas notoire pour son imagination, enfin c'est pas Jules Verne ou Alexandre Dumas,
certes,
est par ailleurs un conteur surdoué. Mmh. C'est-à-dire que pour peu que le réel lui fournisse les éléments, après il est absolument, je trouve, virtuose dans sa façon de l'organiser, dans la façon dont il ventile l'information, dont il manipule et accompagne le lecteur, et puis dans cette espèce de ton qu'il réussit à trouver, et cette façon qu'il a de dire « je », qui lui a été beaucoup reproché, mais qui, pour ma part, est le contraire d'une coquetterie narcissique, qui est au contraire une forme de politesse, voire d'humilité. Ça, je suis sûr que je lui fais confiance, ça n'empêche pas l'auteur de ne pas se prendre pour de la gnognotte dans le privé. Mais dans ses livres, je trouve que ce n'est pas du tout une façon de se faire mousser. Ça fonctionne un peu comme la coccinelle de Gottlieb, c'est-à-dire que c'est une façon d'accueillir le lecteur, de dégonfler les baudruches, de mettre les choses en perspective. Bref, Carrère est un auteur qui a déjà un certain nombre de livres impressionnants à son actif. Ça en fait un de plus, carrément et carrèrement.
Oh. C'était bossé, ça.
Comment ça m'est venu en venant ?
Jean-Marc.
Bon, c'est un peu longué, et c'est pas très palpitant, mais c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça intéressant parce
c'est
que c'est un livre qui est cruel avec sa mère, mais c'est pas un livre à charge. Mais il n'oublie rien des reproches qu'il peut lui faire. Alors déjà, je pense que sa mère, dans l'intimité, était un personnage épouvantable. C'est une sorte de femme froide, mécanique.
Pas que.
Avec son mari, elle est dégueulasse.
Ah ouais.
Avec ses enfants, on ne sait pas trop. Il y a cette histoire de Kolkhoz où ils dorment plus ou moins ensemble au pied du lit. Avec les petits-enfants, elle leur fait plein de cadeaux. Ça a l'air de passer. Mais il se venge d'une certaine manière dans ce bouquin, à mon avis, avec deux choses. C'est en rappelant déjà ce qu'il appelle une providentielle erreur. Quand elle publie L'Empire éclaté, qui va faire sa réputation, elle commet une erreur, c'est-à-dire qu'elle envisage la chute de l'URSS du fait des républiques du Caucase et du séparatisme musulman. C'est pas du tout ça qui va se passer. Et puis, juste à quelques semaines de sa mort, de sa disparition médiatique, elle commet une nouvelle erreur. Et là, Emmanuel Carrère-Dankos enfonce le clou. Elle imagine que M. Poutine est un homme trop bien sur lui et trop bien élevé pour envahir l'Ukraine. Et là, c'est une erreur qui la mortifie, parce qu'en fait, ça ruine sa réputation au moment où elle se retire de la vie. Après, il y a, à mon sens, encore quelques pics. Par exemple, il dit qu'elle connaît par cœur des poèmes de Brasillach, qui rappellent son amitié avec Maurice Bardèche. Et c'est une façon de faire le...
Donc avec l'extrême droite.
Avec l'extrême droite vichiste, et de faire le lien avec son précédent roman où il parlait de son grand-père, d'ailleurs qu'elle n'a pas apprécié.
Grand-père qui fut collaborateur. Enfin,
j'ai l'impression aussi que c'est un livre qui tient beaucoup par une succession d'anecdotes. Alors il les raconte bien. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est par exemple les communistes qui disposent de la grande encyclopédie soviétique. En 1900... 1953, après la chute de Staline, au moment de la mort de Beria, on leur dit qu'il faut découper l'article Beria, le retirer de l'encyclopédie, et on leur envoie un article d'exactement la même taille en nombre de signes, mais qui est consacré au détroit de Bering. Voilà, c'est ce genre d'anecdote qui est assez drôle, mais un peu longuée. Moi, je vous conseille la lecture du Fauteuil hanté de Gaston Leroux. Il y a beaucoup plus d'académiciens qui meurent, c'est beaucoup plus court, vous êtes gagnant.
Nicolas, est-ce que tu as eu cette sensation de vengeance à la lecture, d'un acte de vengeance?
Pas de vengeance.
Parce que c'est ce qu'évoquait Jean-Marc.
De cruauté, de clarté. Moi, le livre m'a quand même beaucoup impressionné. Alors, à mon avis, il y a 100 pages de trop, 50 pages généalogiques trop longues, 50 pages sur l'Ukraine trop longues. Carrère, c'est comme les très grands vins, c'est-à-dire qu'il y a les grands crus classés, il y a des crus tous les ans, mais voilà, ça reste, il y a des bons crus, des mauvais crus. Et là, à mon avis, c'est un très bon cru. Et comme souvent les écrivains de premier plan, voire les grands écrivains, c'est un genre littéraire en soi, Carrère. Carrère, il fait du Carrère. Il y a un mélange de choses, mais il y a une fluidité. Il a un génie de la digression quand il parle de Nabokov, quand il parle de littérature russe. Il y a des scènes, la scène où il découvre les Saint-Dominique Sanda avec sa mère, c'est magnifique. Sa mère qui part à l'hôpital et qui fait son lit, c'est une scène extraordinaire. C'est shakespearien, là. C'est magnifique.
Elisabeth.
Alors, au départ, je me suis dit... Manu, parce que moi je me permets de l'appeler Manu.
Ah oui, d'accord.
Même s'il autorise que ses deux sœurs, il le dit dans le livre à l'appeler comme ça. Mais je disais, bon, Manu, tu nous l'as un peu déjà fait, ça, on a lu dans un roman russe, dans Yoga, dans La Moustache. Et puis quand même, la magie opère. C'est Laurent qui disait ça, c'est vrai qu'Emmanuel Carrère est un conteur inégalable. Vous n'avez pas parlé du moment où Hélène Carrère-Danco s'est fait enlever failli se faire enlever par un pilote afghan en 68, c'est ça, enfin juste après la naissance d'Emmanuel Carrère. Il imagine sa vie si jamais il avait été un enfant élevé en Afghanistan par ce pilote avec sa mère. Et en fait, il y a un vrai art du montage chez Emmanuel Carrère, c'est-à-dire qu'il y a des motifs qu'on va trouver à un moment. On ne sait pas pourquoi ils sont là et en fait on les retrouve des pages plus loin et en cela c'est un peu le fusil de Tchekhov, vraiment si on veut rester dans les noms russes, c'est-à-dire s'il y a un fusil quelque part à un moment dans une histoire, il faut qu'il serve à quelque chose quelques pages plus loin, et ça Carrère est maître dans cet art-là. Et puis je trouve que le propos est vraiment très très important, il le disait, il voulait pouvoir parler de la Russie, de l'Ukraine, mais il ne trouvait pas la porte d'entrée, et ça a été la mort de sa mère, cette porte d'entrée, il l'écrit dans le livre, et c'est effectivement un livre à la fois sur l'empire que sa mère a eu sur lui et sur l'empire russe. Et finalement, l'empire de sa mère sur lui l'a rendu complètement aveugle à tout ce qu'il y avait autour, et notamment à une autre branche familiale, qui est la branche géorgienne, à laquelle il ne s'était pas du tout intéressé. Or, sa mère était et russe et géorgienne. Alors quand même que Carrère, sa cousine, a été présidente de la Géorgie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui parle de sa famille, mais sa famille lui offre un matériau romanesque extraordinaire, entre les aristocrates déchus.
Et le seul géorgien qui intéresse Hélène Carrère-Dankos, c'est Staline.
C'est Staline, exactement.
Et puis il y a son père.
Et son père, qui est un personnage, et qui en plus lui offre aussi la matière de ce livre, parce que son père a fait énormément de recherches généalogiques. Tu le disais, Rebecca, il était passionné, il avait une espèce de fascination pour la famille de sa femme, donc d'Hélène Carrère-Dankos, qui est effectivement le destin de cette famille est complètement dingue. D'anciens aristocrates russes qui arrivent en France et qui vont tous avoir des vies plus misérables les unes que les autres. Hélène Carrère-Dankos était quand même apatride. Elle n'a appris à parler le français qu'à l'âge de 5 ans et elle est devenue secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Ce qui me fait d'ailleurs beaucoup rire, c'est qu'elle tenait énormément à être appelée le secrétaire perpétuel. Et peut-être que le pire acte de vengeance d'Emmanuel Carrère dans ce livre, c'est de constamment écrire la secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
Kolkhoz d'Emmanuel Carrère paraît chez POL. La deuxième saga familiale de ce masque livre est américaine, avec le nouveau roman de l'autrice Joyce Maynard. Pour rappel, Joyce Maynard s'est fait connaître grâce à une autobiographie où elle racontait notamment sa relation destructrice avec J.D. Salinger. Elle est aussi l'autrice de Prêt-à-tout, adapté au cinéma par Gus Van Sant, etc. Enfin, Par où entre la lumière, c'est le roman dont on va parler. Et c'est une suite, mais on peut entrer dans ce livre sans avoir lu le précédent. Certains d'entre vous, donc, retrouveront les mêmes personnages, dont la narratrice, Eleanor, son ex-mari et ses trois enfants. Parmi ces enfants, le Benjamin, Toby, devient ici personnage principal et moral du récit. Toby a perdu des fonctions cognitives et motrices après avoir failli mourir noyé à l'âge de 4 ans et demi. On retrouve aussi plusieurs thèmes, le rêve enfui d'une famille idéale, la figure d'une mère sacrificielle. Et au fil de 600 pages, elle se soucie enfin d'elle-même, cette Eleanor, de son bonheur professionnel, amoureux et sexuel. Le roman se déroule sur 50 ans, des années 70 à nos jours, et ce titre, Par où entre la lumière, est inspiré d'un vers de Leonard Cohen. Jean-Marc.
C'est épouvantable. Non, mais un bouquin pareil, c'est juste épouvantable. Son principal mérite, c'est que les chapitres sont très courts. Une, deux, trois,
avec
quatre pages.
Le
problème,
débiles.
C'est qu'il y en a 172, donc ça fait 600 pages. Évitez-vous cela. C'est une overdose de pathos. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'elle a trois enfants. Il n'y en a pas un seul qui lui dit « Maman, je suis embauchée à EDF, rassure-toi, tout est tranquille jusqu'à la retraite. » Ils ont tous des vies pas possibles. Ensuite, ça commence, le gamin est à l'hôpital, on enchaîne avec un cancer. Après, il y a une leucémie, il y a des alcooliques partout, une grève de moelle osseuse. La seule opération qui manque, c'est les hémorroïdes. Enfin, vraiment, le truc... Moi, j'aime bien être pris par la main dans un roman quand on me dit « Allez, Jean-Marc, viens, tu vas voir, c'est sympa, c'est émouvant, etc. » Mais là, c'est les menottes qu'elle vous met, quoi. C'est-à-dire, du début à la fin, elle vous prend, elle vous lâche pas. Et en plus, chaque chapitre ou presque se termine par des sentences de type développement personnel. Je vous en lis une ou deux, c'est atroce. « On ne peut pas réparer les erreurs passées. On ne peut qu'espérer faire mieux à l'avenir. » Fin du chapitre.
Bah, c'est pas faux, hein.
Tout est vrai, mais il faut surtout pas l'écrire. « Tu mérites d'être aimé. » À la manière qui te convient, tout le monde le mérite. Ben oui, on ne peut qu'approuver. Enfin, vous avez ce genre de sentence à chaque fin de chapitre. C'est de la fumisterie et du racolage. Vraiment, évitez-vous ça.
Nicolas.
Alors moi, je ne serais pas aussi rédhibitoire. Alors, durant notre enfance, quand on avait Télé 7 jours, en quatrième de cours, il y avait une pub pour les fauteuils Everstyle. Vous savez, c'était ces grands fauteuils dans lesquels on s'installait. Alors on se disait, c'est pas beau, on n'oserait pas l'avoir, mais on aimerait bien l'essayer. Et c'est un peu ça. On se met dedans, c'est assez confortable. C'est un côté littérature charentaise. Vous savez, quand on regarde une série, alors on regarde jusqu'au bout, on fait du binge-watching, là on fait du binge-reading. J'ai lu d'une traite, on se dit, bon, je vais quand même savoir où ça va. Mais il y a un côté un peu guilty pleasure. Tout le monde est gentil, tout le monde est démocrate. Il y a la fille trans, il y a le gendre un peu... Il y a l'abominable gendre républicain qui est évidemment alcoolique. Puis il y a des tunnels, mais je sais pas, il y avait... voilà, il y a un côté... C'est un peu comme il y en a d'indigestion de Haribo, mais voilà.
Tu t'es senti sale.
Oui, mais j'ai pris une douche, donc tout s'est bien fini.
Non, bah écoute, Nicolas parlait de Télé 7 jours. Moi, j'ai beaucoup pensé au téléfilm d'M6 qui passait le dimanche après-midi, qui durait 4 heures. Mais c'était très bien parce que si on avait fait un peu trop la fête la veille, on pouvait complètement s'endormir devant, se réveiller à n'importe quel moment, on suivait complètement l'affaire.
Il y a un petit côté
c'était,
Xanax, oui.
C'était, non, mais c'est que mais des
c'est,
clichés.
C'est le championnat du monde de la métaphore, là.
C'est un empilement... Ah non, bah, c'est elle qui a commencé. Pardon, mais... Il faut arrêter avec le kintsugi. Vous savez, cet art japonais, là, des bols cassés, et puis on les répare avec des filaments d'or, parce que c'est une métaphore de la résilience. Arrêtez, s'il vous plaît. Enfin, plus jamais je veux voir une évocation du kintsugi dans un roman. Évidemment, elle le fait. Son titre, c'est la citation la plus nunuche, la plus cruche de Leonard Cohen. C'est pas possible.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Joss Bénard, surtout? C'est ça, la question?
Non,
absolument.
Non, mais c'est
horrible.
Elle a vu la lumière. Attendez, vous avez oublié de parler d'un truc qui est horrible.
Oui.
Donc, elle écrit, notre Eleanor, là, la mère courage qu'on voit de toutes les couleurs. Enfin, c'est épouvantable. Je vous parle même pas de son histoire d'amour avec l'explorateur du pôle sud ou du pôle nord, je sais plus, mais la pauvre, on a vu lui dire arrête.
T'es kintsugi ou pas kintsugi, toi, Laurent Chalumeau?
Moi, je suis plus âgé que vous, donc ça me permet de prendre un peu d'altitude. non, mais c'est un texte à prendre pour ce qu'il est.
C'est ce qu'on a fait.
Je trouve ça vain de lui faire de mauvais procès. C'est Elisabeth qui a raison. C'est de la série Feel Good.
Hyper Feel Good.
Dans l'industrie télévisuelle, il y a cette étape de l'écriture qui précède généralement le scénario et que les Américains appellent le treatment et en français on dit continuité dialoguée. Ou alors à l'inverse, quand une série marche bien, on l'exploite aussi en librairie avec des romans vite fait, mal fait, qu'on appelle novélisation. Bah, là, on a l'impression de lire quelque chose qui est entre effectivement la continuité dialoguée ou la novélisation d'une série, mais une série extrêmement comestible. Comme disait Elisabeth, éventuellement en récupération d'une gueule de bois.
Alors, dans un fauteuil Everstyle.
Dans cette catégorie, bah, c'est très, comme vous l'avez tous dit, c'est très bien intentionné. Il y a moyen de passer des jolis moments. Alors évidemment, si on commence à appliquer des critères littéraires à l'affaire, bah, on identifie des manques. Quoi. Les personnages n'en sont pas, c'est juste des porte-manteaux auxquels on accroche des problématiques. La phrase est totalement dénuée du moindre tressaillement stylistique. Mais... on s'en fout, c'est pas le sujet. Quoi.
C'est un très mauvais livre, mais on s'en fout.
Non, c'est pas de la littérature, c'est de la lecture. Voilà.
Et pourquoi ils n'ont pas sorti ça avant l'été? C'est ça.
Oui,
c'était un livre fait pour la plage.
Oui, tout
en
à fait.
En fauteuil Everstyle.
Oui, c'est vrai.
C'est pas très pratique.
Par où entre la lumière?
Sous le pavé, la plage, oui.
Spéciale dédicace à Elisabeth Philippe, Parou, entre la lumière de Joyce Maynard est disponible aux éditions Philippe Ray dans une traduction de Florence Lévy Paoloni. On termine en changeant de registre et de ton avec Nous les moches, c'est le titre, mais aussi les premiers et les derniers mots du troisième roman de Jean Michelin, en lice pour le prix Méduse. Ils sont quatre lycéens de Norfolk, Virginie, États-Unis au début des années 90. Quatre merdeux, je cite, invisibles et bons en rien, qui imaginaient que le rock'n'roll, plus précisément le thrash metal, serait leur planche de salut. Évidemment, la réalité et leur talent ne sont pas à la hauteur de leurs rêves, mais 40 ans plus tard, tandis que l'un d'eux n'a plus que quelques mois à vivre, ils reforment leur groupe. Grâce au coup de main d'une rockstar vieillissante, pas encore tout à fait soumise aux règles du business, les voilà partis en tournée dans des petites villes des États-Unis. C'est le troisième roman de Jean Michelin, je l'ai dit. Les précédents se nourrissaient de son expérience d'officier militaire, dont Ceux qui restent, qui avait été remarqué par le jury du Grand Prix du roman de l'Académie française il y a 3 ans. Est-ce que le thrash metal est dans tes cordes, Nicolas?
Pas vraiment. Il faut tout le côté rock que je ne connais pas du tout. J'ai un peu sauté. J'ai trouvé ça sympathique, mais ça, j'ai trouvé ça d'abord très 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 loin à démarrer. La petite rédemption d'un groupe d'individus où chacun a son petit problème. Surtout, c'est l'intérêt je me suis posé la question du plus produit, si je puis dire. On a l'impression que c'est un livre américain, mais il est écrit par un Français. Beaucoup de romanciers américains auraient pu faire ça. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un point de vue d'un Français sur cette chose-là, parce que ça se promène aux États-Unis, mais d'ailleurs on a l'impression aussi que c'est le début d'un roman qui aux États-Unis aurait fait 800 pages, et là on voudrait avoir plus de détails, ça se promène dans les Appalaches, ça se balade, on n'a pas assez de choses, donc c'est un peu comme si un Américain faisait du Nicolas Mathieu en France, c'est-à-dire que je ne voyais pas l'intérêt en fait.
Elisabeth ?
Ah ben moi je ne voudrais sûrement pas plus de détails ni plus de pages. Voilà. Vous vous souvenez du film The Full Monty avec ces Anglais au chômage qui se lançait, passé un certain âge, dans le striptease. Bah là, c'est un peu Full Metal Monty, puisque c'est pareil, c'est des gens un peu âgés, enfin des cadras qui se relancent dans le thrash metal. On dirait une mauvaise traduction de l'anglais, puis une traduction hyper datée. C'est-à-dire que pour faire un peu rock, un des narrateurs, parce qu'il y a deux régimes de narration, il y en a un qui parle à la première personne, et pour dire le docteur, il dit le doc. Il dit son vieux, et c'est censé se passer aujourd'hui, donc c'est complètement absurde. Évidemment, ça a la prétention, un peu comme Joyce Maynard, du grand roman américain, même si c'est Jean Michelin qui l'écrit, avec cette traversée de l'Amérique du milieu, de l'Amérique oubliée, l'Amérique qu'on survole, mais on ne voit rien. Ils sont dans leur van, on ne voit absolument rien. Il y a des pages interminables sur l'assemblage d'une batterie. Il n'y a aucune unité de style non plus. Ça commence par une forme d'anaphore, nous les moches, nous les moches, nous les moches, qui se veut certainement un peu anaphore dépentienne, j'écris de chez les moches pour les moches, etc. etc. Mais
c'est Arnaud, c'est le chanteur Arnaud qui disait sur scène, on est moche, mais au moins on s'amuse.
Là, on s'amuse pas du tout.
Chalumeau, qui ricane, ancien rock critique, Laurent Chalumeau.
Moi, je trouve ça attendrissant. De voir les efforts déployés par l'auteur pour écrire son livre, effectivement, comme s'il était traduit de l'américain. J'ai envie de lui dire que ça lui passera avant que ça me reprenne. Mais bon, c'est mignon de le voir essayer. Je trouve attendrissant de le voir alors qu'il n'a que 40 ans. C'est vrai que c'est étonnant parce que le texte paraît l'œuvre de quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'est attendrissant de le voir essayer de réactiver des mythologies qu'on pourrait croire exténuées, mais qui, semble-t-il, ont la vie dure. La reformation du groupe de rock, Nasbrock, la vie sur la route, le road trip, le buddy movie, etc. Mais bon, du coup, c'est attendrissant de le voir prendre autant de plaisir à fabriquer son truc. Parce que là, mon vieux, c'est plaisir d'écrire, joie de l'encre noire. Il tartine généreusement des deux côtés de la tranche. C'est son livre. Il fera long s'il a envie et personne ne pourra l'en empêcher. Et d'ailleurs, personne ne s'y aventure. Ce qui est attendrissant aussi, c'est derrière le petit ton à la redresse qu'il essaye de prendre conformément au code du genre, cette masculinité, parce que c'est quand même très masculin.
C'est une histoire de garçon.
Cette masculinité pas masculiniste, on peut au moins lui donner quitus de ça, mais plutôt une masculinité maladroite et romantique qui trouve dans la production de bruit entre copains un exutoire à des hormones. Donc c'est à l'arrivée, c'est clairement pas The Great American Novel, mais bon, c'est sympatoche.
Jean-Marc, pour finir.
Je trouve ça sympatoche aussi, comme dit mon voisin Chalumeau. C'est pas un grand roman, mais c'est... En fait, je crois qu'il a écrit un scénario pour un film de Clint Eastwood, oui. C'est-à-dire un film assez basique où on prend des petits vieux, on les sort de leur retraite et on leur dit « Vous pouvez revivre une partie de votre jeunesse. »
Bah, c'est pas des petits vieux, ils ont la quarantaine.
Oui, mais c'est bon, je dis que c'est un film de Clint Eastwood.
Oui,
Clint
mais
Eastwood
avec Pierre Niney
et
François Civil,
et donc il aura 80 ans
et
il en paraîtra 50, c'est ça l'idée. Et ça se passe toujours de la même manière.
Sa copine en aura 20.
Il y a un événement imprévu qui les pousse à faire un voyage. Au cours de ce voyage, ils vont parler de leur vie ratée, des enfants, la maladie. Enfin voilà, il n'y a pas grande surprise. Il y a toujours un petit jeune qui se mêle au groupe pour prendre la relève, puisque c'est des histoires de transmission. Ça fonctionne plutôt bien. Ne connaissant pas grand-chose au thrash metal, j'avoue qu'il y a des passages que j'ai trouvés un petit peu longués, mais je me dis que voilà. Si on fait un roman sur les plombiers, on va parler de la longueur et du diamètre des tuyaux, et c'est logique aussi.
Je pense que c'est plus intéressant et plus utile.
Oui, mais parce que toi, tu préfères les plombiers au thrash metal.
C'est un choix de vie. Hein.
Je comprends l'idée. Mais ça
je ne me prononcerai pas, pour ma part.
Ça reste un livre où on essaye de parler d'un métier particulier, en l'occurrence des musiciens. Et il y a une phrase que je retiens qui, à mon avis, résume bien le livre. « Je suis sorti en bazardant ma bière sans alcool sur la table. » C'est la révolte des rockers, mais c'est en même temps une bière sans alcool. On est totalement boomer.
« Nous les moches » de Jean Michelin est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est l'heure de vos coups de cœur, bande dessinée, livre de poche, nouveauté ou podcast. Quel est ton coup de cœur, Laurent ?
Le dernier entretien et autres conversations. Comme son titre l'annonce, il s'agit d'interviews de John Didion, échelonnées entre 1972 et 2021, qui sont très allègrement traduits et préfacés par l'excellent Brice Mathieusson. C'est une lecture très inspirante, en dépit du fait où... Au contraire, grâce au fait que John Didion, de ses débuts jusqu'à la fin, est en interview ce qu'on appelle une très mauvaise cliente. C'est-à-dire qu'elle ne fait vraiment rien pour aider ou faciliter la tâche de ses interlocuteurs et interlocutrices. Au contraire, on a l'impression qu'elle prend un malin plaisir, mais malin vraiment au sens de tumeur maligne, à leur compliquer la tâche. Et en dépit de tout ça... Elle réussit, ou il et elle réussissent à lui faire dire des choses inspirantes et puissantes, comme on dit trop. Mais donc, pour toutes et tous les fondus de cette petite femme colossale et titanesque, John Didion, publié au Livre de la Promenade, c'est le nom de la maison d'édition, petit éditeur niçois, comme son nom l'indique, le dernier entretien et autres conversations.
Alors, quant à moi, j'ai choisi aussi des entretiens, mais radiophoniques, puisque j'aimerais vous recommander l'un des épisodes de ce podcast littéraire qui s'intitule Bookmakers, mené par Richard Guettet. Et trois épisodes sont consacrés à Natacha Apana, justement, dont on a parlé avec son nouveau roman La Nuit au Cœur. Et ces conversations ont été enregistrées avant la sortie du roman, ce qui pointe le fait qu'il n'y a aucune visée promotionnelle, ce qui, en ces temps de rentrée littéraire, est extrêmement rare. Si bien que c'est une conversation de 3 fois 1 heure qui revient non seulement sur l'ensemble de son œuvre, mais alors que précisément il y a un sujet qui est le féminicide.
Elle l'élude.
Elle l'élude, mais la conversation va sur la technique et sur l'écriture elle-même, ce qui de nos jours est assez rare. Et donc je vous recommande ce podcast qui s'intitule Bookmakers, dont le sous-titre est Les écrivains au travail. Ça commence toujours par la même question, quel est le mot qui correspond le mieux à votre univers littéraire ? Réponse de Natacha Apana, c'est endroit. Donc la suite est à écouter sur le site d'Arte Radio ou sur l'appli Radio France. Elisabeth, c'est
ouais,
à toi.
C'est un très beau podcast. Alors moi, c'est le nouveau livre de Grégory Le Floch qui s'appelle Peau d'ours avec un E. Avec ce livre-là, Grégory Le Floch se fait un peu l'héritier gothique de Jacques Demy, puisque sa peau d'ours est un peu l'équivalent du peau d'âne de Demy, à savoir une relecture, non pas d'un conte de Perrault, mais d'une légende des Pyrénées. Et c'est dans cette région, dans un tout petit village au pied des montagnes, que se déroule l'histoire. On y suit une adolescente de 16 ans qui vit entre son père mutique et sa mère scotchée devant Cyril Hanouna. Et cette adolescente a pour particularité d'être très très grosse. Elle le dit elle-même, je suis grosse et je suis moche. Elle s'habille avec des joggings 5XL et elle chausse du 48. Et en plus, elle a son corps qui commence à se couvrir de poils. Alors elle est évidemment la risée de ses petits camarades au lycée et ça s'aggrave pour elle quand elle déclare sa flamme une nuit d'insomnie à une certaine Kelly, une de ses camarades de classe. Et là, évidemment, elle devient victime. Enfin, évidemment, non, mais elle devient la victime d'un déluge de haine lesbophobe. Et à partir de ce moment-là, cette créature, cette adolescente que ses camarades surnomment Mont Perdu, va vouloir disparaître dans les montagnes avec lesquelles elle converse. Elle comprend leur langage, elle comprend le langage des animaux. Et en fait, Grégory Le Floch crée un livre très particulier, une sorte de livre de super-héros. Vous savez, les super-héros, ce sont souvent des adolescents qui ont été maltraités et qui se vengent grâce à leur super-pouvoir. Et c'est avec une langue qui mélange une sorte de lyrisme animiste et une oralité très contemporaine. C'est vraiment un livre extrêmement singulier, à la fois drôle, brutal, violent, et il y a une vengeance aussi qui est très, très satisfaisante.
Peau d'ours de Grégory Le Floch qui paraît au seuil. Nicolas.
Alors moi, c'est une petite séance de rattrapage. C'est un livre sorti juste avant l'été, parce que, outre la littérature, j'aime beaucoup la gastronomie, la gourmandise, on en parlait. C'est un petit livre d'Eri De Luca qui s'appelle « Récits de saveurs familières ». Eri De Luca, donc romancier italien très, très sérieux, s'est fait un petit plaisir façon Philippe Delerme. Il évoque les souvenirs gourmands, gastronomiques de sa jeunesse. Il parle du ragoût, des pâtes, du pain, et avec des chapitres très, très délicats. Et en même temps, c'est un type que la nourriture n'intéresse pas. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire qu'il c'est pas insensuel. Et en même temps, il arrive à rendre gourmand ce qui ne l'intéresse pas. Et ça, c'est parce qu'il est italien, donc il y a quelque chose de...
Et, oui.
et chaque chapitre est intercalé avec un de ses amis nutritionnistes qui explique le pourquoi du comment de chaque chose. Donc c'est une sorte de petit manuel. Et donc c'est un type qui nous ouvre l'appétit tout en nous faisant la gueule. Donc ça, c'est amusant.
Récit de saveurs familières d'Eri De Luca, c'est publié chez Gallimard. Jean-Marc ?
Moi, je descends jusqu'à l'intestin. Je vais vous parler de Fleurs intestinales de Vamille, un récit graphique aux éditions Sarbacane qui parle de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est un handicap invisible. Et ce qu'elle raconte très bien dans ce récit, c'est à quel point ça bousille sa vie et ça la coupe de tous les liens sociaux, la famille, le boulot, les relations amoureuses, parce que c'est une maladie honteuse dont elle n'arrive pas à parler. Et en parallèle à ce lien social qui se délite en permanence, il y a sa vie médicale en quelque sorte, où il y a une succession de médicaments, des protocoles qui changent, les auto-injections d'immunosuppresseurs. Elle vit avec ça et elle représente la maladie de Crohn comme un spectre à tête de mort avec qui elle va nouer une relation d'amour-haine parce que Crohn lui dit tout simplement « Toi et moi, on est liés pour la vie ».
Tu rappelles le titre ?
Fleurs intestinales de Vamille aux éditions Sarbacane.
Jean-Marc Proust, Nicolas Destienne-Dorve, Elisabeth Philippe et Laurent Chalumeau, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. L'actualité littéraire sera à nouveau au programme la semaine prochaine avec les nouveaux romans de Laurent Mauvignier, Maria Pourchet ou Séphora Pondy. Nous en débattrons à Nancy puisque l'équipe du Masque sera présente au Livre sur la Place. L'enregistrement de l'émission commencera à 20h30 le vendredi 12 septembre et si vous souhaitez y assister, vous pouvez vous inscrire comme d'habitude sur le site de Radio France. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Loïc Duros, Patrick Muller et Jérôme Casamayou aujourd'hui. Ilinka Negulescu est toujours à mes côtés pour préparer et coprogrammer l'émission. Ma bande et moi vous retrouvons dimanche prochain pour des enthousiasmes ou des désaccords et une liberté critique dans tous les cas sur France Inter, évidemment.